received.
Le conventicule est discret.
Comment survivre à l'apocalypse? On ne peut survivre qu'à la perspective de l'apocalypse. Survivre à l'apocalypse semble impossible.
Alors, l'apocalypse d'abord, de par ses racines étymologiques, c'est le passage à la lumière. Donc, et c'est l'éclaircissement.
Si ce n'est croire que l'apocalypse sera suivi d'une résurrection et d'une... Mais sinon, on ne peut survivre qu'à la perspective de l'apocalypse.
L'apocalypse est compris comme ça. En fait, l'apocalypse, c'est le moment de transition où les choses explosent pour passer de l'autre côté. Passer dans un autre territoire où les gens auront compris. Enfin, bon, c'est supposé être comme ça. Alors, la question était quoi? Comment pourrons-nous faire?
Très bonne question. J'en sais rien. On verra quand ça sera le moment.
Ben, je pense que quand on comprend l'alchimie de l'être et qu'en fait on est esprit et qu'on est dans un véhicule, bon, on y croit ou on n'y croit pas, mais dans ces cas-là, c'est sûr qu'on survit à l'apocalypse puisqu'on est déjà, on vit déjà dans le passé, présent et le futur et qu'on est déjà de l'autre côté.
Comment survivre à l'apocalypse? Je pense que tout simplement, l'apocalypse c'est un mythe, hein, donc c'est un mythe que l'on construit, c'est une construction.
Quelque part. On est déjà de l'autre côté. Parce que quand on a compris le concept, il y a déjà l'alchimie de l'essence de l'être qui s'est déjà produite, donc on est déjà de l'autre côté.
Par la porte de l'écologie, mais c'est une religiosité qui revient par ce biais-là. Mais on a besoin de religieux, donc c'est normal. C'est pas très étrange finalement.
Comment survivre à l'apocalypse ? C'était la question du conventicule des discrets cette semaine, et c'est quand même une question un peu étrange, mais c'est un peu dans le thème de ce que je vous propose aujourd'hui. Alors nos auditeurs les plus fidèles auront peut-être entendu Radio Glace samedi dernier. Radio Glace, c'est une création de Pali Meursault et Thomas Tilly, qui sont allés semer leur micro pendant l'été dans les glaciers du département, qui ont aussi interrogé les gens qui vivent autour de ces glaciers et qui ont produit une série de sons sur la question que je vous invite à retrouver sur radioglace au pluriel .net, radioglace.net. Vous retrouverez aussi le podcast de l'émission qu'on a réalisé à cette occasion sur campusgrenoble.org. On a fait 3 heures d'écoute suivi d'un concert à la fin. Alors, écoutez les glaciers qui fondent, ça m'a rappelé un article de la revue Audimat. Une revue que on ne saurait que trop vous recommander, une revue plutôt musicologique d'habitude, mais une fois, dans le numéro 10, à la fin du numéro 10 qui date maintenant de décembre 2018, il nous proposait un article d'Alexandre Galland qui s'intitule « Écouter dans les ruines du capitalisme ». Et c'est un peu dans le même thème, et du coup, en allant chercher les sons qu'il évoquait, je me suis dit que j'allais vous lire cet article et vous faire écouter ces différents sons. Voilà le programme pour l'heure qui vient, vous allez écouter des choses surprenantes et parfois disparues. Écouter dans les ruines du capitalisme, c'est donc au programme de Magnétofusni cette semaine pour un exercice spécial lecture finalement. Au début du XXe siècle, une espèce d'oiseau endémique de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande disparaît. À cause de la chasse, de la déforestation ou de l'introduction par les Occidentaux de prédateurs comme le rat, le huia dimorphe rejoint la liste déjà longue des espèces éteintes dans le cadre de ce qu'on nomme désormais la sixième grande extinction. Les Maoris utilisaient les plumes de cet oiseau sacré, dit tapu, comme indicateur d'un statut social élevé. Seuls les chefs de haut rang pouvaient en porter dans leur coiffe. Les plumes pouvaient également être utilisées dans le cadre des échanges commerciaux et des pratiques funéraires. Le nom de l'huia est onomatopéique. Pour les Maoris, son cri évoquait l'expression « Où êtes-vous ?». Il l'imite, notamment dans le cadre des pratiques de chasse. La disparition de l'oiseau au début du XXe siècle explique pourquoi nous n'avons pas gardé d'enregistrement des vocalises de l'animal. L'histoire pourrait s'arrêter là. C'est sans compter la survivance d'un véritable fossile sonore qui nous permet d'entendre, par le biais de l'interpénétration des mondes humains et autres qu'humains, le chant et le cri de l'oiseau. issu des collections du Wang Nui Regional Museum, un disque daté de 1949 et retrouvé dans les archives du fermier et preneur de son Robert Batley, comprend un enregistrement d'Enare Amana, un vieil homme maori pardon, qui en 1909 avait guidé une expédition naturaliste à la recherche du Huia. On y entend le vieillard imiter l'oiseau alors disparu depuis plusieurs décennies.
Mr. Henry Hamana will now give us his Huia calls. Let us imagine two birds are feeding on a rotten tree. After a while, the female climbs to the top of the tree and glides into the distance. The male bird calls with the following notes. The female answers. After this, the male replies. The male bird then joins the female, where they scratch amongst leaves. After feeding, they both climb to the top of a totara tree. And now, to complete the survey of the Huia, Mr. Hamana will repeat his calls. The male. Female.
Avec la manière dont il rentrouble les frontières entre présent et passé, entre monde humain et non humain, entre disparition et survivance, cet enregistrement est un exemple poignant de ce que peut être un fantôme sonore du Capitalocène. Cette assimilation de l'enregistrement sonore au domaine spectral est bien connu. Les micro-sillons conservent les traces de voix qui se sont tues. Dans un contexte de catastrophe causée par le capitalisme et caractérisé par de nombreuses raréfactions et disparitions, aller à la rencontre de tels fantômes est indispensable. L'historien François Hartog définit notre rapport au temps comme le présentisme. Tandis que le futur n'est plus le temps de promesses et d'accomplissements qu'annonçaient les promoteurs du progrès, le passé a depuis longtemps été relégué au rang de l'histoire et du patrimoine. À cheval sur la ligne du temps, nous regardons nos pieds. Une des conséquences de ce rapport au temps est ce que les scientifiques nomment le décalage de référentiel. Ce phénomène se traduit par notre amnésie chronique et par le déplacement du seuil de normalité. Les crises, les paysages dévastés, les disparitions deviennent peu à peu la nouvelle réalité. Le décalage de référentiel explique pourquoi, si on n'y prend pas garde, nos enfants trouveront normal de vivre dans un monde sans récifs de corail, sans tiques, sans abeilles, sans grands singes, etc. Les fantômes du Capitalocène, qu'ils soient sonores, visuels et ou narratifs, viennent troubler cette expérience du présent, nous hanter, et nous rappellent que nos vies portent les traces du passé. Ils surgissent pour nous montrer que les mondes que nous habitons sont multiples, s'enchevêtrent, et ne sont pas l'apanage de cet anthropos occidental, extractiviste et productiviste qui est le coupable de notre temps de catastrophe. Ces revenants du Capitalocène désignent les vestiges de manières de vivre du passé et de l'ailleurs, de mondes qui auraient pu persister ou advenir, de mondes qui n'auraient jamais dû être considérés comme inférieurs aux nôtres sur une quelconque échelle de valeur ou de l'évolution. Ces fantômes nous obligent à scruter les traces des choix du passé, mais aussi les dérives du présent. Plutôt que des documents, des fragments de paysages ou des œuvres d'art à contempler, les fantômes sonores peuvent être considérés comme des récits, offrant des lignes de fuite à notre imaginaire. Envisagés avec catastrophisme, cynisme ou déni, ces fictions transforment ces lignes de fuite en impasses. Elles s'apparenteraient dès lors à des fictions de clôture, comme les nomment Camille de Toledo, Alyosha Imhoff et Kantuta Kairos dans leur ouvrage « Les potentiels du temps, art et politique » paru en 2016 chez Emmanuel. Pour ces auteurs, les fictions de clôture sont ces récits qui ne peuvent envisager un futur autre que par le prisme du négatif. Ce sont les récits zombies qui maintiennent en place un monde inadéquat et remplissent le présent d'hypothèses fermées. À ces fictions de clôture, ils opposent et veulent promouvoir des fictions potentielles qui désirent retrouver le sens de l'espérance en métamorphosant les récits afin, écrivent-ils, d'habiter nos temps obscurs. Tentons, dès lors, d'envisager ce que pourraient être des enregistrements de terrain qui seraient autant fantômes que fictions potentielles. Écouter dans les ruines du capitalisme, c'est donc ce que propose de faire l'article d'Alexandre Galland, c'est d'ailleurs son titre, que je vous lis aujourd'hui dans Magnétophonie sur les 90.8 de Campus Grenoble. Habiter nos temps obscurs, c'est ce à quoi Anna Loventhal-Putzing nous encourage lorsqu'elle étudie la possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme. Ne pas détourner le regard, mais s'intéresser à ces ruines, car il s'y passe quantité de choses passionnantes. Des mondes enchevêtrés s'y développent, et pour peu qu'on les considère, ceux-ci peuvent cultiver notre faculté d'observer, d'écouter, de raconter et de constater qu'il y a encore des plaisirs au sein des terreurs de l'indétermination. Apprendre à écouter dans les ruines du capitalisme est une forme d'usage du monde crucial en temps de précarité. Par les modes d'attention qu'il mobilise, l'écoute et peut-être l'enregistrement sont des voies d'accès privilégiées au processus qui affecte les milieux de vie et leurs habitants. Cet art d'observer, que nos temps obscurs devraient encourager, qualifie bien le travail de Peter Cusack avec son projet « Sounds from Dangerous Places ». Sorti en 2012, mais enregistré en 2006 et 2007. L'anglais s'est notamment intéressé à un lieu particulièrement fantomatique, la ville de Pripyat et les villages voisins de la zone d'exclusion de Tchernobyl. Là, il se pose la question de savoir ce qu'on peut apprendre des sons qu'émettent des lieux dangereux. 20 ans après la catastrophe nucléaire du 26 avril 1986, la région est toujours soumise aux effets de la catastrophe. Cusack y scrute ses effets sur les paysages, la vie animale, ainsi que le quotidien et l'imaginaire de ses habitants. Il y enregistre aussi bien des chants d'oiseaux que ceux des femmes et des hommes. Il capte également le son de l'électricité, qui passe sans cesse dans les câbles qui alimentent l'arche de Tchernobyl, c'est-à-dire le dispositif de maintenance du réacteur accidenté de la centrale. Produits avec soin, réflexion et attention, ces sons disposent d'un puissant potentiel narratif et géopolitique. Par leur caractère fantomatique, ils viennent interroger et bousculer la confiance renouvelée que le monde accorde encore à l'énergie nucléaire. Rien à voir donc avec le tourisme de la catastrophe, ce qu'on appelle parfois le « dark tourism », et sa quête de sensations fortes. C'est donc le craquement des câbles électriques dans le village de Pripyat, enregistré par John Cusack dans sa série Sounds from Dangerous Places. Et on continue dans les environs de Tchernobyl en 2006 et 2007 pour écouter le chant du coucou. Capté non loin de la grande roue de Pripyat, ce disque nous fait notamment entendre les signaux sonores donc d'un dosimètre, c'est ce qu'on vient d'entendre, qui mesure la radioactivité et le chant d'un coucou en arrière-plan. Cusack observe dans les notes du livre que cette juxtaposition est quelque chose d'ironique, puisque ces deux types de sons évoquent l'idée d'exclusion. Tandis que les coucous jettent les œufs et les jeunes dénient qu'ils s'approprient, les radiations trop élevées forcent l'évacuation des résidents de Pripyat. Signe de son intérêt pour la complexité et l'enchevêtrement des mondes, Cusack nous signale que, dans le folklore ukrainien, le chant du coucou est considéré comme un indicateur du temps qui passe. Des recherches scientifiques récentes ont par ailleurs montré que le nombre et la forme des syllabes qui forment le fameux chant du coucou dépendent de la densité de population de mâles sur un territoire, mais aussi des conditions de vie. Les coucous étudiés dans la zone contaminée de Tchernobyl produisaient ainsi des syllabes moins nombreuses aux formes aberrantes, qui sembleraient indiquer que dans certains cas, le chant des oiseaux pourrait nous fournir des données précieuses sur les conditions d'habitation, ou d'habitabilité plutôt, d'un territoire. C'est le type d'information qu'on peut dégager lorsqu'on pratique cet art d'observer et d'écouter dans les ruines du capitalisme. L'art de l'écoute dans les ruines du capitalisme ne se cultive pas uniquement dans les zones urbaines. Le preneur de son et compositeur californien David Dunn s'est distingué en décentrant la focale de nos modes d'écoute. Pour The Sound of Light in Trees, sorti chez Earth Air en 2006, il a conçu un système d'enregistrement de très petite taille afin d'investiguer et de révéler le paysage sonore de l'intérieur d'un arbre, le pignon. C'est un pignon avec un Y au milieu. C'est un type de pin à pignon vivant dans le nord du Nouveau-Mexique. En s'intéressant à cette variété, Dunn souligne un problème écologique majeur, la prolifération des scolytes. Ces coléoptères xylophages consomment habituellement le bois des arbres les plus faibles et participent ainsi à la régénération des forêts. Avec le changement climatique et les hivers plus chauds qui en découlent, ces insectes ont tendance à se multiplier de manière exponentielle et à décimer des forêts entières pour satisfaire leur appétit. Par exemple, l'Ips confucius, une espèce de scolyte, a détruit selon les endroits entre 50 et 100% des pignons de la région prise en compte par David Dunn. Ce dernier ne se contente pas de cultiver l'art d'observer puisqu'il devient lui-même un maillon des enchevêtrements qui lie insectes, arbres, paysages, climat et conservateurs de la nature. Il collabore avec des agents forestiers afin de localiser les populations d'insectes sur le point de s'activer en se fondant sur leur production sonore. La signature acoustique relevée est en effet dépendante de la gravité de l'infection et de l'étendue de la colonisation. Grâce à l'invention de Dunn, des mesures de contrôle et d'intervention peuvent alors être prises afin de freiner l'expansion des colonisateurs. Et David Dunn va même plus loin en diffusant à destination des scolytes un montage cacophonique de leur production sonore. Des expériences ont montré que les insectes étaient fort dérangés dans leur comportement et, ce qui intéresse les conservateurs, dans leur reproduction, par le chaos acoustique créé par David Dunn. Cet emploi du son comme arme de lutte contre les nuisibles permettrait d'éviter le recours aux insecticides. Bien entendu, ceci pose question. On ne peut s'empêcher de penser aux travaux de Juliette Volclair sur les usages militaires et policiers du son. Évoquons par exemple les bombardements sonores de l'armée américaine en Irak ainsi que la diffusion de heavy metal par la même armée dans les camps de Guantanamo. Le travail de composition de David Dunn relève d'approches esthétiques et scientifiques, mais aussi d'une réflexion éthique. Vous écoutez Magnétophonie sur les 90.8 de Campus Grenoble et ce que vous entendez là est le son à l'intérieur d'un arbre. Un arbre envahi par les scolytes. Et comme vous pouvez l'entendre, il y en a un paquet. C'est une création de David Dunn qui dure une heure et qui s'intitule The Acoustic Ecology of Pinyon Pines. Je ne vais pas pouvoir la passer dans l'intégralité puisqu'on va continuer la lecture de l'article d'Alexandre Gallon qui s'intitule « Écouter dans les ruines du capitalisme ». Par le prisme a priori anodin du son, des scolytes, du réchauffement climatique et des forêts, la démarche de David Dunn semble écartelée dans ce conflit caractéristique de notre temps que Bruno Latour et Eduardo Viveros de Castro ont appelé « la guerre de Gaïa ». D'après le nom de la déesse mère assimilée à la Terre. Cette guerre métaphorique, aux effets pourtant bien concrets, oppose les humains aux terriens, avec des non-humains dans chaque camp. Ici, ces non-humains sont les scolytes, les arbres, le réchauffement climatique, mais aussi le microphone et le travail de composition sonore de David Dunn. Les humains sont ceux qui continuent à nier la nature, à se bercer des illusions du progrès et à aggraver les effets néfastes du capital au sein. Les terriens, par contre, sont ceux qui prennent acte courageusement des catastrophes en cours et choisissent de revenir sur Terre afin de retrouver des formes de complicité propres à rendre le monde plus habitable. Avec ses prises de son et son travail de montage destiné à lutter contre la déforestation, David Dunn est-il un preneur de son et compositeur terrien ou humain ? Peut-on avoir des intentions terriennes qui ne peuvent se concrétiser que par des techniques humaines ? Un microphone et un enregistreur produits d'une chaîne opératoire technique complexe et industrielle peuvent-ils être des outils efficaces dans l'instauration d'imaginaires allant à l'encontre de notre présent mortifère ? On le voit, on l'entend, le capitalocène, ou l'anthropocène, selon la manière dont on choisit de caractériser notre époque, nous oblige à reconfigurer nos relations entre humains, mais aussi avec les autres qu'humains. L'histoire de l'enregistrement de terrain regorge de documents fantômes illustrant des types d'interactions que la modernité occidentale a oubliées ou gagnerait à connaître. Ce qui est intéressant avec notre présent, c'est qu'il nous impose un regard neuf sur ces enregistrements. Les prises de son ne devraient plus être seulement considérées pour leur potentiel esthétique ou informatique. Elles ne devraient plus être envisagées dans le cadre d'une quête nostalgique d'authenticité ou d'exotisme, mais bien en tant que traces et motifs d'inspiration pour d'autres cosmopolitiques. À titre d'exemple, quantité de fantômes sonores bousculent les relations entre humains et non-humains qui dominent actuellement les conceptions industrielles de l'élevage. Prenons par exemple une briolée au bœuf, enregistrée en 1913 par Ferdinand Bruno à Nohant, dans le centre de la France. Ferdinand Bruno est le fondateur, en 1911, des Archives de la Parole, dont le but est d'enregistrer, d'étudier et de conserver les témoignages oraux de la langue parlée. Cette incantation immémoriale, cette relique vivante, est en fait un chant entonné par le laboureur afin de soutenir l'effort des bœufs et d'agrémenter la monotonie de leur tâche. Composé uniquement d'onomatopées, ce chant n'a, au sens strict, pas de signification verbale. Ce que vous venez d'entendre a bien été enregistré le 30 juin 1913. C'est donc la briolée au bœuf. Un chant qui ne veut donc a priori rien dire, si ce n'est pour emprunter les mots de Georges Sand qui était fasciné par la briolée, qui n'en est pas moins un beau chant et tellement approprié à la nature du travail qui l'accompagne, à l'allure du bœuf, au calme des lieux agrestes, à la simplicité des hommes qui le disent, qu'aucun génie étranger au travail de la terre ne l'eût inventé, et qu'aucun chanteur autre qu'un fin laboureur de cette contrée ne saurait reproduire. C'est ce qu'écrit Georges Sand dans La Mare au Diable, mais en 1846 cette fois. Et cette dernière affirmation de Georges Sand est tellement vraie que cette forme musicale a disparu lors de la première moitié du XXe siècle, alors que la paysannerie occidentale se voyait offrir le moyen de mécaniser sa manière d'user la terre. S'il n'est pas certain que ce chant ait été enregistré sur le terrain, et s'il est même très possible qu'il ait été lissé et discipliné pour les besoins de l'enquête, il peut cependant être considéré comme une trace, peut-être imparfaite, mais rare et poignante, d'un mode de collaboration entre homme et animal qui se fait de plus en plus rare. Peut-être ne faut-il pas seulement l'envisager comme un document figé, mais comme un récit riche en potentialités. Ces enregistrements audio-naturalistes ou ethnomusicologiques, qui documentent d'autres usages du monde, ont de la valeur en tant que témoins de l'histoire de l'incroyable diversité des formes de vie. Ils sont des preuves sonores qu'il y a des manières distinctes d'être humain, d'être vivant. Il s'agit, par le biais de l'écoute, d'honorer les singularités, pour reprendre l'expression de Marielle Massé dans sa synthèse consacrée à la nécessité de construire la critique d'une stylistique de l'existence et des formes de vie. Ces extraits, qui offrent à l'écoute autant de singularités, peuvent être envisagés comme des forces d'altération, comme le lieu d'un véritable pluralisme des modes d'être, et sont autant d'expériences alternatives porteuses de promesses, pour reprendre les mots cette fois de Philippe Descola. S'intéresser à ces formes de vie, écrit Marielle Massé, c'est se soucier de leur vulnérabilité, et les aider à rayonner. Cette comparution, que peut prendre en charge l'enregistrement de terrain, tient à cela. Des manières de se côtoyer, de se rapporter les uns aux autres, des façons d'habiter son corps, ses lieux, sa ou ses langues, son pays, et des façons de le quitter, des modes relationnels, des rythmes, des environnements, des liens, dont on veut vraiment, de ce que l'on est en droit de juger, de ce que l'on est en droit d'espérer, de ce que l'on tente d'imaginer pour le faire venir, ou de tout ce à quoi l'on décide de tenir, ou que l'on défend simplement en le vivant, de façon discrète et tenace, sans mot d'ordre. Il nous faut d'autres formes de vie. Mais encore, autre citation, « Voici un autre être ici. » C'est percevoir sa forme comme une puissance d'altération insubstituable. Et par conséquent, éprouver notre propre forme comme une possibilité du vivant, telle parmi d'autres. C'est donc bien là un des intérêts de l'enregistrement de terrain à l'ère du réchauffement climatique et de la sixième grande extinction, nous amener à la rencontre de la multitude des formes de vie, nous en faire prendre conscience, nous apprendre à les reconnaître ou à les connaître, à les observer et donc à les écouter, pour en ces temps de raréfaction et d'uniformisation, savoir ce que nous sommes tenus de défendre. Il est vrai que le preneur de son peut parfois être assimilé à un embaumeur. Dans son analyse des voix, des cultures à l'agonie, Jonathan Stern souligne ainsi que le phonographe devient un outil permettant d'embaumer pour les temps futurs un présent indigène déjà supposé figé. Mais les formes de vie que le preneur de son saisit et la manière dont il les capte peuvent aussi raconter un rapport au monde, à la technique ou au sensible. Assumer cette nature historique mais dynamique et potentiellement politique d'un enregistrement de terrain est nécessaire dans un contexte qui impose de reconfigurer les liens qui nous rattachent au vivant, à l'altérité et à d'autres vies que les nôtres. Comme exemple de cette multitude des formes de vie, on pourrait citer, parmi des milliers d'autres, un chant rituel Takasago pour les semailles du millet, enregistré en 1943 à Taïwan par Genjiro Masu et Takamoto Kurosawa du Japan Music Institute. Les notes de l'anthologie dont est issu cet extrait précisent « Rien de plus extravagant, selon toutes nos notions musicales, n'a sans doute jamais frappé une oreille européenne. » On n'y déchiffre aucune échelle, aucun rythme, aucune forme, aucun principe de conduite vocale définissable. Bornons-nous donc à rappeler que ce morceau proprement inouï se rattache à un acte très solennel, le rite des semailles du millet, principale nourriture de la tribu. Le chant est confié à 6 hommes qui viennent de passer plusieurs jours à se purifier conformément aux prescriptions ancestrales. Le patriarche commence par une prière, on a placé du millet par terre, et il lui ordonne de germer et de mûrir. Levant alors les bras, les 6 choristes magiciens se mettent à tourner à petits pas autour du grain et chantent sur l'unique voyelle O leur stupéfiante incantation qui monte lentement comme des ténèbres souterraines, s'élèvera vers la lumière, la semence qui fortifie. Thank you. Cet intérêt pour les formes de vie par le biais de l'écoute ne devrait bien entendu pas verser dans l'exotisme, compris comme une approche qui privilégierait les modes d'expression les plus sensationnels. Le monde n'est pas un cabinet de curiosité dans lequel une quelconque légitimité nous autoriserait à ranger et classer ce qui nous paraît étrange et étranger. Cet art de l'observation et de l'écoute devrait par ailleurs favoriser une réflexion critique quant aux moyens techniques et aux modes de captation sonore. Qu'on pense par exemple aux premiers enregistrements ethnomusicologiques. Pour des raisons techniques, la durée limitée de l'enregistrement et de la reproduction par le biais du disque, mais aussi pour des motifs idéologiques. Ces ethnomusicologues ne captaient en durée qu'une part infime des chants ou des rituels. La question du bruit de fond est très importante. Lors de l'enregistrement et de l'édition, les collecteurs de musique ont longtemps eu tendance à atténuer ces sons a priori externes à la performance. Cris d'enfants dans le village, chants d'oiseaux venant de la forêt, chocs d'outils de travail. Or, ces bruits donnent un caractère intime et unique aux interprétations. Souvent, ces bruits permettent aussi de mieux comprendre les musiques captées. Le nettoyage sonore visant à les éliminer est le produit d'une pensée typiquement occidentale de la séparation. On connaît quantité de chants et de musiques qui interagissent avec l'environnement, qui tissent des liens entre manifestations sonores humaines et non humaines. Cette approche par-delà nature et culture est suggérée par les travaux de Philippe Descola, mais aussi ceux de Tim Ingold ou de John Baird Callicott. Exemple particulièrement réussi de cette attention échappant aux préoccupations occidentales, les disques externes de Stephen Feld ont permis de mieux comprendre les musiques des Bosavi de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui dialoguent avec les bruits de la forêt, des chants d'oiseaux, des cris de grenouilles ou du vent, parfois en les imitant.
Diamant,
Vous écoutez Magnétophonie sur les 90.8 de Campus Grenoble et cette semaine, pour une fois, je fais la lecture d'un article paru dans la revue Audimat du numéro 10. Ça s'intitule « Écouter dans les ruines du capitalisme », un article d'Alexandre Galland qui nous proposait, comme on vient de le faire à l'instant, d'écouter « Voices of the Rainforest », un enregistrement de Steven Feld. De la même manière, il s'agira, si on s'intéresse aux mondes sonores animaux, de s'interroger sur la pertinence de les nettoyer de tout bruit d'origine humaine. Pour certains preneurs de son, la tentation est en effet grande de préserver le fantasme d'une nature paradisiaque vierge, alors que notre époque est justement marquée par l'altération irrémédiable de l'ensemble de la Terre. Choisir d'habiter nos temps obscurs et d'écouter dans les ruines du capitalisme, cela ne devrait probablement pas consister à entretenir le mythe de cette fameuse « wilderness », soit de la survivance d'une nature qui n'aurait pas été transformée par la main de l'homme. Comme nous l'enseigne William Cronon, la wilderness n'existe pas en soi et est plutôt le produit de notre civilisation. Il s'agit d'une création foncièrement humaine, artificielle, même si elle se cache derrière un masque d'autant plus trompeur qu'il paraît naturel. Pour Cronon, le mythe de la wilderness entretient le mythe de la séparation comme s'il y avait d'une part une nature sauvage, uniquement digne d'être préservée, et d'autre part des milieux de vie humains, artificiels et décadents. En réalité, écrit Cronon, nous sommes responsables des deux, bien que nous ne puissions revendiquer l'existence d'aucun. Notre défi consiste à arrêter de penser en termes d'échelonnement moral et bipolaire, dans lequel l'humain et le non-humain, le naturel et le non-naturel, le pur et le décadent nous servent de guide conceptuel dans notre compréhension et notre évaluation du monde. Au lieu de cela, il nous faut accepter le continuum des paysages naturels dans sa globalité, car il est aussi culturel et fait que la ville, les banlieues, le champêtre et le sauvage occupent chacun une place que nous pourrons célébrer sans dénigrer inutilement les autres lieux. Il nous faut honorer l'altérité avec un grand A, l'altérité intérieure, et l'altérité voisine, autant que l'altérité exotique. C'est une leçon qui s'applique tant aux hommes qu'au reste de la nature. Et il nous faut tout particulièrement trouver un terrain neutre commun sur lequel tous ces lieux, de la ville à la wilderness, pourraient être inclus dans ce que nous considérons être notre habitat. Après tout, ce dernier est l'endroit où l'on construit sa vie, celui pour lequel on prend des responsabilités, l'endroit que nous tentons de conserver afin de pouvoir transmettre à nos enfants ce qu'il a et ce que nous avons de plus précieux. Fin de la citation. Cet extrait pointe aussi la nécessité d'abandonner la logique de la séparation, aussi bien dans la manière dont nous considérons notre habitat commun que dans la façon dont nous documentons le monde et ses aspects sonores. C'est en cela que les disques de Stevenfeld et d'autres sont cruciaux. Dépasser cette logique de la séparation, mais aussi de l'exotisme, impose de passer d'une pratique de l'enregistrement de terrain qui, d'extensive, devrait devenir intensive. Par approche extensive, il faut considérer les imaginaires de la conquête, de l'exploration, du tourisme, avec la découverte et l'appropriation de nouvelles terres comme moteur. Dans le domaine de l'enregistrement de terrain, cette approche extensive correspond, en caricaturant un peu les choses, à la chasse au son, c'est-à-dire le collectionnisme et la multiplication de missions d'enregistrement aux quatre coins du monde pour en rapporter les dernières beautés. Comme conséquence de cette approche, l'art d'observer s'en voit diminuer, la connaissance de ce qui est rapidement enregistré est tronquée, la pertinence éthique et politique dévoyée. Notre ère de catastrophe impose de dépasser cette approche extensive pour redécouvrir la Terre de manière intensive. La quête du neuf n'y est plus soumise au principe que la vie serait ailleurs. Non, le monde est bel et bien là, prêt à être écouté sous nos pieds, dans le bois ou le parc à côté de chez nous et dans tous les lieux auxquels nous sommes attachés. Cette approche intensive impose que nous soyons prêts à décrire, étudier et défendre ces lieux dans un rapport au temps qui excède le cadre de la mission, du séjour ou des vacances. Pour reprendre la terminologie évoquée tout à l'heure, il y a beaucoup plus de potentialité dans l'approche intensive que dans l'extensive. Dans cette nécessité de cartographier minutieusement les territoires, on appréciera l'approche intensive de Yannick Dobie, qui, après quelques séjours à Taïwan, a fini par s'y établir. Là, le preneur de son et compositeur n'est pas seulement impliqué dans une étude des productions sonores humaines, mais aussi non humaines, de leur interaction et de leur utilisation à des fins esthétiques, pédagogiques et cosmopolitiques. L'extrait qui suit, issu d'un entretien avec Yannick Dobie, montre bien la nature intensive de son travail. Je cite « Connaître le terrain, c'est s'approprier des sons, mais dans le bon sens du terme. Ne pas se contenter de collecter et d'utiliser les sons, mais tisser une relation personnelle quasi affective avec certains chants d'animaux ou certaines musiques. Aujourd'hui, il est tout aussi intéressant pour moi de retrouver un son, un signal dans un milieu légèrement différent, d'enregistrer une variante de quelque chose que j'ai déjà entendu, que de découvrir un nouveau paysage. Connaître l'arrière-plan de certains sons, leur contexte, ne me gêne en rien. Identifier un animal, c'est reconnaître le milieu dans lequel il vit. C'est être parfois à même d'apprécier l'individu plutôt que l'espèce. De la même manière, avoir accès au texte d'un chant en demandant autour de moi me permet d'enregistrer un commentaire, une opinion, d'engager une relation plus complète ou plus complexe. Fin de citation. Engager une relation plus complète ou plus complexe. Voilà ce qui sous-tend une démarche intensive. Les disques de Yannick Dobby, se tiennent à la frontière de la musique électronique, du documentaire radiophonique, de l'invention de dispositifs électroacoustiques, de l'improvisation musicale à partir d'objets trouvés ou encore de la phonographie animalière. En 2009, il est invité avec sa compagne Wan Xuanzai à travailler avec le village de Taoshan de la communauté Atayal, qui est un des groupes aborigènes de Taïwan. Là, il s'engage dans une démarche d'échange, de mise en partage du regard et de l'écoute. Il s'agit de tisser, de mettre en connexion des éléments qui, s'ils n'avaient été envisagés que dans une démarche extensive, n'auraient peut-être pas émergé. Les deux artistes collectent des histoires, des récits historiques et des mythes auprès de la population locale. Cette approche relève donc de l'enquête et met en jeu une curiosité réciproque. Les captations sonores ont un but mémoriel ou discographique, mais aussi pédagogique et ludique. Il est proposé aux Atayal de s'approprier les outils de l'enregistrement. Cette dimension leur permet de documenter eux-mêmes ce qu'ils choisissent de déposer en guise de mémoire, bien qu'il faille souligner que cette mémoire se soit bien débrouillée pendant longtemps sans dispositif technique d'enregistrement et d'archivage. Concrètement, la collaboration avec la communauté s'est nouée par le biais de l'école locale. Certains chants et récits liés au mythe et à l'histoire de la communauté ont servi de base à des ateliers de poésie sonore. Ces jeux vocaux, formés d'onomatopées, sont enseignés dans le cadre du cours de langue maternelle d'Atayal, que peu de jeunes connaissent encore, et évoquent le chant rituel pour les semailles du millet qu'on a écouté juste avant. Lors des ateliers de création sonore, les enfants ont également trouvé leur inspiration dans les cris stridents, les coassements et autres structures complexes des productions sonores animales. Le disque s'appelle « Listen to the Atayal in Taoshan », sorti à l'atelier Wikan en 2010, et comprend finalement des enregistrements de sons naturels effectués cette fois par Yannick Dobby, des chants et musiques interprétés par des villageois, des histoires racontées en mandarin et en atayal, des récits ou moments partagés, et des activités menées avec des enfants. Des jeux, des moments de création collective, des improvisations musicales et vocales, des ambiances sonores de l'école. S'y entrelacent le passé et le présent, les mondes humains et non humains, le jeu et la réflexion, pour tenter de décrire à un territoire ce qu'est ou ce que peut être une communauté dans une approche résolument intensive. Ce portrait n'est pas là pour figer, folkloriser, objectiver, mais pour tisser des liens et susciter des potentialités. Notre monde troublé et instable impose la nécessité d'établir ou de retrouver de nouvelles complexités avec le paysage et le vivant. Dans ce cadre, l'enregistrement de terrain pourrait être envisagé comme une pratique proche de ce que Baptiste Morisot a nommé le pistage éco-sensible. En se fondant sur son étude du retour du loup en France, ce philosophe diplomate a élaboré tout un dispositif de réflexion visant à favoriser différents modes de cohabitation. Le pistage éco-sensible est un de ses outils. Le pistage entretient plus d'un lien avec l'enregistrement de terrain. Il s'agit dans les deux cas d'un art de l'écoute, d'une pratique de l'attention aux signes et aux traces, d'une quête patiente de l'invisible. L'expression « chasseur de son », même si elle est rejetée par les preneurs de son à cause de son association à la chasse, souligne bien cette proximité. Pour Morisot, le pistage écosensible désigne toute attention d'un vivant aux signes des vivants, à tout indice des structures immatérielles qui les régissent, à toute trace qui les concerne, engage sa manière d'habiter et de cohabiter et appelle l'enquête. Peut-être cette définition pourrait-elle s'appliquer à une pratique de l'enregistrement de terrain engagée dans une description visant à rendre nos paysages plus vivants et plus intéressants, à en faire des territoires à décrire, à mieux connaître et à défendre. Il s'agit à nouveau de cet art d'observer qu'il est tellement nécessaire de cultiver pour appréhender les espaces de vie subsistants dans les ruines du capitalisme. Le pistage écosensible et l'enregistrement de terrain rendent attentifs à quantité de signes, sinon invisibles ou inaudibles. Avec de telles approches, le monde qui nous entoure ne peut plus être considéré selon la vision des modernes occidentaux, c'est-à-dire comme inerte, indifférencié, séparé, prêt à être exploité. Non, le monde ainsi envisagé est animé, il bruisse de vie, déborde de potentialités écologiques mais aussi géopolitiques. Baptiste Morisot bat ainsi en brèche la phrase bien connue de Pascal « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie ». Car s'il y a bien quelque chose que le pistage écosensible, et j'ajouterai l'enregistrement de terrain, nous enseigne, c'est qu'il n'y a pas de silence. Comme Morisot l'explique, le silence de l'univers infini n'est qu'un effet tardif de la perte de contact avec nos communautés écologiques. Ce n'est pas une condition humaine fondamentale. L'univers vivant n'est pas silencieux, il est saturé de signes. Il est toujours en champ complexe, en interprétation nécessaire. Derrière la clôture ou dans le terrain vague ou à la fenêtre, pour qui veut essayer d'écouter, il n'y a pas de silence. Cette notion de champ complexe pourra évoquer à certains le grand orchestre animal de Bernie Krause. Ce preneur de son, qui depuis 50 ans enregistre les espaces naturels, terrestres ou marins, aujourd'hui menacés par les activités humaines. Selon Krause, la Terre est un immense orchestre où chaque espèce émet son cri ou son chant sans empiéter sur les productions sonores d'autres animaux. Il y aurait donc une forme d'harmonie acoustique de la nature qui peut être mise à mal par l'irruption de l'anthropophonie, c'est-à-dire les sons issus de l'activité humaine. Il n'y a pas de silence, donc. Mais si au cours de sa vie, Bernie Krause a archivé les sons de plus de 15 000 espèces animales, il nous apprend que près de 50% de ces sons sont aujourd'hui dégradés ou éteints. Il n'y a pas de silence peut sembler un vœu pieux à une époque où un tiers des oiseaux disparaissent des campagnes françaises en à peine 15 ans. Certes, mais il n'y a pas de silence, et l'attitude qui sous-tend cette injonction devrait être considérée comme des invitations à s'investir dans cet art de l'observation et de l'écoute, à cette potentialité nécessaire à la description des formes de vie à défendre. La proposition de pistage écosensible de Baptiste Morisot implique une autre dimension, celle du perspectivisme, tel qu'il a été défini par l'anthropologue Eduardo Viveiros de Castro. Pour le perspectivisme, le monde est composé d'une multiplicité de points de vue. Tous les existants sont des centres d'intentionnalité qui appréhendent les autres existants selon leurs caractéristiques et puissances respectives. Le pistage perspectiviste s'intéresse donc aux autres formes de vie en faisant l'effort d'imaginer comment celles-ci voient le monde, en font usage et vivent leurs relations inter- et intraspécifiques. Pour être efficace, le pisteur doit en effet se mettre dans la peau de l'animal qu'il suit. Cette dimension perspectiviste est une qualité de l'enregistrement de terrain qui sait se rendre curieux des formes de vie auxquelles il s'intéresse. Le preneur de son tente d'échapper à la posture de l'enregistrement qui objective, qui considère avec surplomb, qui a du mal à se détacher du seul point de vue humain ou occidental. Comme exemple d'enregistrement de terrain perspectiviste, il convient de citer le travail du Danois Knut Victor. Dans l'environnement qui entoure la bergerie du Luberon, où il a vécu et travaillé pendant une cinquantaine d'années, Knut Victor n'a eu de cesse de scruter les formes de vie les plus modestes avec lesquelles il cohabitait, de tenter d'en donner un portrait sonore attentif et décentré. On lui doit ainsi une série de petits sons permettant de définir son approche comme étant définitivement attentive. Le lapin qui rêve, l'escargot qui mange une feuille de salade, les vers à bois qui creusent et communiquent entre eux. Il y a bien entendu une dimension poétique et fictionnelle dans ces extraits. Une petite note entre nous, j'ai pas pu sélectionner parmi les 15 000. Aussi perspectiviste soit-elle, notre volonté et nos techniques ne peuvent nous donner entièrement accès au monde de cet autre qu'humain qu'est le lapin. Mais je voudrais emprunter ici le propos de Jean-Christophe Bailly dans son livre « Le parti pris des animaux », sorti chez Christian Bourgeois en 2013, et l'adapter pour pointer tout l'intérêt de ce type d'enregistrement. Là, Alexandre Galland se permet aussi quelques ajouts d'ailleurs. Bailly évoque sa rencontre nocturne avec un cervidé sur un bord de route. Une telle écoute du monde animal par le biais du casque et des microphones, puis par le disque, c'est à la fois comme une pensée et comme une preuve. C'est la pensée qu'il n'y a pas de règne, ni de l'homme, ni de la bête, mais seulement des passages, des souverainetés furtives, des occasions, des fuites, des rencontres. L'animal est dans son milieu, et nous dans le nôtre. Et nous y sommes seuls, l'un et l'autre. Mais dans l'intervalle de cette écoute, ce que l'on peut toucher, justement, c'est cet autre milieu. Ce milieu sien venu à nous, non pas versé, mais accordé un instant. Cet instant donc qui donne sur un autre monde. Une vision, rien qu'une vision, le pur jaillis d'une bête hors de son milieu, mais plus net qu'aucune pensée. Pour définir cette vision, je pense qu'on pourrait aisément emprunter une des définitions que donne Walter Benjamin de l'aura, qui est l'unique apparition d'un lointain, même proche. Cette unique apparition d'un lointain, même proche, cette vision d'une bête hors de son milieu, évoque les promenades en des mondes inconnaissables de Jacob von Exkull, ce pionnier de l'éthologie a théorisé l'idée d'Umwelt, qui désigne l'environnement sensoriel ou monde propre qui est caractéristique pour chaque espèce ou chaque individu. Dans le même environnement, chaque organisme fait l'expérience d'un monde propre. L'abeille a sa propre perception de la forêt qui n'est pas la même que celle du renard, qui n'est pas la même que celle de la tique, etc. L'enregistrement de terrain, peut-être, nous donne accès à ces autres Umwelten. En tout cas, dans la fiction qu'il engage, il peut nous le faire croire. On se rappellera ainsi que Merleau-Ponty définissait l'Umwelt comme une mélodie qui se chante elle-même. Les enregistrements perspectivistes de Knut Victor apparaissent comme de telles promenades en des mondes inconnaissables, comme des tentatives d'incursion dans d'autres Umwelten, pour y entendre d'autres mélodies et formes de vie. Alors, pour la conclusion, Alexandre Galland évoque une autre promenade en des mondes inconnaissables et très symbolique de l'ère du réchauffement climatique, puisqu'il s'agit d'un enregistrement de Glace qui fond. Il évoque un enregistrement de Marc Namblard. Et puisqu'on va conclure Magnétophonie pour cette semaine, je vais plutôt faire une référence à un projet auquel on a participé. J'en parlais au début de l'émission, donc c'est Radio Glace. Une longue série d'enregistrements de Palimorceau et Thomas Tilly. Vous pouvez trouver ça sur Radio Glace, avec un S à glace.net, et aussi en émission spéciale sur campusgrenoble.org. Voilà, cette semaine, donc, on lisait l'article « À l'écoute des ruines du capitalisme » d'Alexandre Galland, sorti dans le numéro 10 de la revue Audimat, une revue qu'on vous recommande chaudement. Et on dira donc pour conclure avec Alexandre Galland que c'est de ce champ, au-delà des hommes, pour reprendre les mots de Paul Celan, de cette fiction nourrie d'autres formes de vie, de l'émotion et de la curiosité qui naissent de son écoute, que peuvent peut-être surgir les potentialités propres à habiter et écouter nos temps obscurs. Bonne écoute, bye bye.